Oui, la foi chrétienne repose justement sur ce témoignage au départ des saintes femmes pour la résurrection. Et puis ensuite, tout le témoignage qui va s'en suivre, puisqu'on voit, on nous dit bien dans certains passages des Actes des Apôtres, hein, ceux qui l'ont suivi depuis les commencements. Donc on a une espèce d'unité à la fois de la vie de Jésus et de l'événement mort-résurrection. Et la foi chrétienne repose sur ce témoignage initial. Il est justement transmis de génération en génération. Donc on voit comment c'est un élément fondamental pour la constitution de l'Église. Je dirais d'autant plus fondamental que peut-être à l'inverse ou à la différence du peuple juif, il n'y a pas de transmission par la naissance. On ne naît pas chrétien. On le devient par le baptême. Alors quand on devient chrétien par le baptême, quand on est tout petit, après, effectivement, il y a toute cette question de l'appropriation de son baptême. C'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais je pense que là, on a déjà un premier élément de la transmission chrétienne qui est tout à fait spécifique et qui est important parce que justement, tout repose sur ce témoignage. Et je dirais ce témoignage qui est tourné vers le futur, c'est-à-dire ce point de départ avec la communauté des apôtres, des premiers disciples, et qui va grandir par ce témoignage et par la transmission qui va se continuer. Deuxième élément important dans cette transmission, c'est que l'on sait que pour la tradition de l'Église, il est toujours extrêmement important de se rattacher aux origines, de se rattacher ce qu'on appelle à la génération apostolique, donc les apôtres. Et on peut prendre un exemple qui, dans la tradition chrétienne, a peut-être été un petit peu, dans certains cas, un petit peu forcé. C'est notamment pour l'institution des sacrements, hein, le septennaire des sacrements qui sera défini au Moyen Âge. Donc, à chaque fois, on va chercher comment il a été institué par Jésus lui-même. Et puis, il s'est transmis de manière, successive. À partir de la génération apostolique. Et je voudrais juste citer deux passages dans la première épître aux Corinthiens, alors qui concernent un élément bien spécifique, qui est l'élément justement de la tradition eucharistique, donc de la tradition de la Sainte Cène, et où saint Paul, donc lui-même, qui est pourtant de la première génération, nous dit: Voici ce que j'ai reçu et ce que je vous ai transmis. Et deux versets, non, pardon, quatre chapitres plus loin, il le redit bien, je vous ai transmis ce que j'avais moi-même reçu. Or, pourtant, saint Paul, on est vraiment dans les tout premiers. Et donc, on voit comment il y a cette importance de ce fondement et donc de la transmission pour remonter à la génération apostolique. Donc, ça, c'est le deuxième point qui est important. Et le troisième point, en guise d'introduction, c'est, je dirais, la transmission par rétropédalage, si je peux me permettre cette expression. C'est-à-dire, c'est l'évangile d'Emmaüs, et où Jésus ouvre les Écritures aux disciples, à leur esprit qui n'a rien compris. Parce qu'eux, ils ont bien aussi reçu le témoignage des saintes femmes, hein. Certes, des femmes sont allées ce matin au tombeau et nous ont dit que, et ce n'est pas uniquement par misogynie qu'ils ont douté, hein, ne faisons pas des lectures anachroniques, mais simplement ça paraît incroyable. Et Jésus leur ouvre finalement l'intelligence et le cœur à l'intelligence des Écritures. Donc je dirais, ils vont refaire une lecture en arrière, ce qui est donc aussi une transmission par rapport à toutes les Écritures qui existent. Et bon, on l'a rappelé plusieurs fois, mais je pense que ce soir, c'est pas trop besoin de le rappeler, vu notre auditoire, qu'au moment où Jésus parle des Écritures, évidemment, il ne s'agit que du Premier Testament. L'Évangile n'est pas encore écrit. Mais bon, des fois, comme ça va bien, ça fait du bien d'enfoncer les portes ouvertes. C'est moins fatigant, et c'est parfois nécessaire quand même. Donc voilà, si vous voulez, une question, donc, voyez un petit peu ces trois dimensions de la question de la transmission au niveau de la foi chrétienne. Avec une manière, je dirais, très spécifique, très particulière. On sait combien J'irais, il y a un aspect aussi dans la transmission qui est un aspect de culture historique, de culture générale. On va transmettre, pardon, une tradition, une culture, une histoire, et que c'est cette transmission qui va façonner dès l'enfance l'identité personnelle, l'identité familiale, l'identité locale. On pourrait même dire l'identité nationale, avec toute la problématique que cela pose aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on transmet pour des populations très variées de manière à pouvoir faire nation? Vous voyez, on touche des questions qui sont extrêmement contemporaines et extrêmement importantes. Donc ça, c'est dans le cadre, je dirais, plus général. Mais on va voir tout à l'heure comment cette problématique générale de la transmission dans la société contemporaine nous touche tout particulièrement. Donc, comme je vous ai dit aussi, cette spécificité du témoignage, je le mentionne tout de suite parce que j'y reviendrai en conclusion. Et c'est effectivement ce qu'on a à plusieurs reprises dans les Actes des Apôtres, juste deux citations. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis après, dans un discours de Pierre, je ne fais pas toutes les citations qu'on pourrait faire. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Donc cette importance du témoignage dans la transmission de la foi. Parce que c'est ça qui est en jeu, comme je l'ai dit au départ, puisque au niveau chrétien, on ne naît pas chrétien, mais on le devient, avec la problématique que nous allons voir par rapport justement à la liberté qui va pouvoir s'exercer. Après cette introduction, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement de réfléchir sur la transmission en soi. Mais aussi dans quelle situation nous nous trouvons. Donc là, évidemment, je me situe dans une perspective Église catholique en France, même si je suis plus en France depuis 40 ans. Bon. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à un échec cuisant, retentissant de la transmission. Et je pense que c'est là où se posent les. C'est pour ça que la question est extrêmement importante. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est vrai qu'on est face à un échec. Si je prends un simple exemple, pas du tout désintéressé, la question des vocations. Le problème n'est pas la diminution des vocations dans l'Église. Le problème, c'est que les Églises sont vides. Et que le ratio entre vocation et pratiquant est quasiment constant. Donc, s'il y a moins de vocations, c'est parce qu'il y a moins de pratiquants. Et moins de pratiquants, ça veut peut-être aussi dire moins de croyants. Donc, on a un échec au niveau de la transmission qui est de ces dernières années. Hein, il suffit de voir comment les églises sont à moitié vides et de voir la moyenne d'âge dans les églises. Excusez-moi, sans vouloir être méchant, c'est quand même assez révélateur. Si on regarde aussi tout simplement au niveau des statistiques, je ne vais pas faire un exposé sur toutes les statistiques que l'on peut avoir. Vous avez de très bons bouquins, notamment les bouquins de Jérôme Fourquet, sur tous ces aspects-là pour la France, qui sont extrêmement intéressants. Je rappelle simplement que après la Seconde Guerre mondiale, on devait avoir 95% des Français qui étaient baptisés, grosso modo. Aujourd'hui, c'est très loin d'être la majorité. Qu'est-ce que l'on pourrait encore citer comme autre chiffre au niveau des statistiques? Bon, je vous ai parlé un petit peu des vocations. Bon, mais c'est pas la peine de s'étendre sur cet aspect-là. Je pense que chacun d'entre nous, nous en faisons l'expérience. Puis, quand même, un autre élément important, très révélateur. Autrefois, dans les statistiques, pour définir un chrétien pratiquant, On prenait celui qui allait à la messe tous les dimanches. Aujourd'hui, dans les statistiques, pour définir un chrétien pratiquant, c'est celui qui y va une fois par mois. Et malgré tout, les pourcentages ont sérieusement diminué. Ça, c'est un premier élément parce qu'on a deux niveaux. On a ce niveau de la pratique qui peut être comme révélatrice de la transmission de la foi. Et puis, on a un deuxième niveau sur cette question de la transmission qui est plus général, plus global dans la société. C'est celui que j'appellerais la disparition de la culture chrétienne. Donc là, on n'est plus simplement au niveau d'une transmission de la foi. Mais simplement aussi, donc, on touche à un aspect plus global dans la société, mais où l'Église a une responsabilité, c'est cette transmission de la culture chrétienne. Et où, effectivement, on se rend compte, mais l'alarme avait déjà été sonnée il y a très longtemps, notamment, dans les écoles d'art en France, où face à des œuvres d'art, on se rendait compte que les étudiants n'avaient plus aucune culture, ni chrétienne, ni biblique. Et donc ne pouvait rien comprendre. Donc, on a une rupture, on peut dire, de cette transmission qui se présente dans un cadre beaucoup plus général, qui est, je pense, celui de la société en elle-même. Mais avant de passer sur cet aspect de la transmission dans la société et de cette problématique, je voudrais aborder quelques aspects de la spécificité de la transmission chrétienne. Mais les deux sont liés. Parce que je pense que le premier élément, c'est que l'Église et la transmission, alors je ne vais plus parler de foi, je vais parler de la religion chrétienne. La religion chrétienne était finalement portée par la société. Elle était portée par le contexte, la culture ambiante. La France, fille aînée de l'Église, et comme je disais, 95% étaient baptisés, la communion, le mariage, les enterrements, tout ça passait par l'Église. Et donc finalement, est-ce que là, il n'y a pas eu, je le mets sous forme de question, hein, pour nous pousser à la réflexion, comme un espèce de hiatus qui a fait que la transmission de la religion chrétienne s'appuyait sur les habitudes culturelles et sociales. Alors, certes, l'Église n'a jamais perdu son côté de témoignage et notamment son côté missionnaire. Hein. Il suffit de voir tous l'élan missionnaire qu'on a eu à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Je pense qu'au XIXe siècle, on avait un missionnaire sur deux dans le monde qui était d'origine bretonne. Hein, donc, alors maintenant, c'est plutôt deux missionnaires sur je ne sais pas combien de prêtres qui viennent en Bretagne. Mais enfin bref, vous voyez, il y a une inversion de la. De... Mais je pense que ça pose une vraie question, parce que du point de vue catholique, on avait effectivement, je dirais, un monde et une société qui étaient porteuses. Y compris, on pourrait dire, par la coercition sociale. C'est-à-dire que si on n'allait pas à l'église, les voisins, on n'allait pas à la messe le dimanche, on ne faisait pas ses Pâques, bah ça jacassait dans le village. Donc, effectivement, peut-être une transmission qui était purement formelle et qui était purement de religion et non plus forcément de foi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des beaux exemples de sainteté et de gens qui avaient la foi. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais donc, c'est là où on s'est retrouvé avec le fait que les enfants allaient au catéchisme, avaient un certain nombre d'activités qui étaient encadrées par l'Église. Et puis surtout également, il me semble que l'on avait une structure familiale, le noyau familial, qui était effectivement tenu par l'Église, entre guillemets. Et qu'à partir du moment où effectivement on avait ce noyau familial pris dans ce contexte, On avait une transmission de la foi qui se faisait naturellement au sein de la famille. Même si c'était avec un certain nombre d'éléments, comme j'ai dit, qui aujourd'hui nous paraissent comme des contraintes sociologiques, mais il n'empêche que ça fonctionnait. Même si on sait bien que ça pouvait varier suivant les familles à partir du 19e siècle ou autre. Voilà, là encore, on essaie simplement de tirer des lignes de force par rapport à cette question de la transmission. Et que donc, effectivement, aujourd'hui, avec l'évolution de la société, finalement, l'Église n'est plus portée par la société. Donc la transmission de la religion chrétienne, la transmission de la foi, n'est plus quelque chose qui paraît naturel. Cela devient une exception, d'où l'importance, effectivement, que cette transmission de la foi soit prise en charge d'une manière encore plus consciente par les familles, de manière à ce que chaque famille puisse effectivement éveiller l'enfant, puis l'adolescent, à la réalité de la foi chrétienne et à ce que cela recouvre. Alors, en insistant effectivement sur le fait que dans cette transmission, ce n'est pas seulement la religion qu'il faut transmettre, ce n'est pas seulement la morale qu'il faut transmettre. C'est effectivement ce qu'on essaye de transmettre, c'est la foi. Et donc, en disant transmission de la foi, on voit bien comment on dépasse une simple question de connaissance et qu'il y aura un moment où la personne, dans sa liberté, posera un acte d'adhésion de foi ou pas. Mais il pourra poser cette adhésion de foi ou ce refus de la foi, je dirais avec d'autant plus de liberté, qu'il aura reçu une tradition, qu'il aura reçu des éléments qui vont lui permettre de prendre sa décision en conscience. J'ai toujours trouvé aberrant les gens qui disaient, je ne baptise pas mon enfant, je ne l'éduque pas dans la tradition chrétienne, pour qu'il puisse choisir ce qu'il veut.
Oui.
C'est absurde. Comment voulez-vous choisir ce que vous voulez si vous n'avez pas les éléments pour choisir? C'est exactement comme si on disait, je ne veux pas enseigner une langue à mon enfant parce que je veux que plus tard il choisisse la langue dans laquelle il parlera. Grosso modo, bon, comme toute comparaison, c'est juste, n'était pas tout à fait juste. Et donc c'est là où, effectivement, on touche aussi un point dans cette question de la transmission de la foi chrétienne, qui a été très fort, toutes ces dernières années, à cause de l'évolution de la société par rapport justement au libre arbitre, à ne pas confondre avec la liberté d'ailleurs, mais pas mal de confusion sur tous ces points, qui a été de dire, mais dans le fond, j'ai rien à transmettre parce qu'il faut que mon enfant puisse choisir ce qu'il veut. Donc je ne veux pas lui imposer une tradition déterminée. Donc ça, c'est un des éléments qui est extrêmement important dans la vie de l'Église, et sachant que effectivement, à partir du moment où on va avoir un début de rupture, cette rupture ne va pouvoir qu'aller en s'amplifiant. C'est-à-dire que, pour reparler un tout petit peu de statistiques, je crois que dans les années 80, il y avait seulement 50 ou 60% des baptisés qui étaient catéchisés. Et encore, quand je dis catéchisés, c'est simplement au niveau de l'école primaire et jusqu'à la première communion. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, en 2025, on est 40 ans après, donc pratiquement deux générations après, donc ce sont des enfants qui n'ont pas été formés par des parents, qui n'ont pas été formés par les grands-parents. Donc on voit comment le phénomène ne peut qu'aller en s'amplifiant, puisqu'on a eu une rupture, effectivement, de transmission. À cet autre élément de rupture de transmission, on peut ajouter aussi et ça c'est peut-être encore plus fort d'une manière contemporaine, d'une manière plus récente, c'est aussi le problème de la recomposition des familles. On n'a plus de famille stable, donc ce qui pose aussi quand même un certain nombre de questions. On a des familles qui sont de plus en plus mélangées. Et comme je dis ça, ce n'est pas péjoratif. Mais si je me situe d'un simple point de vue du droit français, pour qu'un enfant aille au catéchisme, il faut que les deux parents soient d'accord. Donc vous devinez que dans des situations conflictuelles ou de couples ou de familles recomposées, ce n'est pas toujours évident. Je ne parle même pas des situations de divorce où rien que pour embêter l'autre, on ne va pas vouloir que l'enfant aille au catéchisme ou inversement. Donc là aussi, on a, je dirais, ce sont des problèmes qui sont très concrets. Et comme je vous ai dit, on sait combien effectivement la famille est aussi un lieu important pour la transmission. Et deuxième élément en plus, comment voulez-vous aussi que des parents puissent transmettre quelque chose qu'ils eux-mêmes ne pratiquent pas? Parce que l'élément de pratique est un élément qui est tout de même essentiel. Même si quand on regarde dans la tradition chrétienne, ce qu'on appelle par pratique, par rapport à d'autres traditions, c'est quand même assez minima. D'où la question que cela peut poser également, est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de, je dirais, de prise ou d'aide dans une structure, ce que donnait la société avant, justement, pour un certain nombre de pratiques. Là encore, je prends juste deux exemples tout bêtes. Le travail dominical. C'était inconcevable avant la Seconde Guerre mondiale, si on était chrétien, de travailler un dimanche. Maintenant, le dimanche, tout le monde peut travailler comme il veut, quand il veut, où il veut. Donc, on n'a plus non plus cette ambiance qui portait par rapport à qui portait par rapport à cette pratique qui était aussi un élément constitutif. Et c'est évident, si je mutatis mutandis, entre le Shabbat en Israël et le Shabbat à Paris, ben en Israël, vous êtes automatiquement porté par l'ambiance aussi. C'est un élément qui joue. Deuxième, enfin non, je sais plus à quel élément j'en suis, ça doit être le troisième maintenant. Ça a été la question aussi également, aussi, si la foi chrétienne était portée par un contexte social qui aidait. Ça a aussi présenté une difficulté, c'est que du coup, on a eu une certaine confusion entre la transmission de la foi, de la religion au sens noble du terme, et la simple transmission d'une morale. Et donc, on a réduit la vie chrétienne à une vie morale, pour ne pas dire moralisante. Ça ne veut pas dire que la foi chrétienne n'implique pas une morale, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et si tu as bien simplement une contrainte extérieure, vous n'êtes plus dans la transmission d'une tradition vivante due à une révélation, due à une foi en Dieu, due au témoignage que pour les chrétiens, Jésus est mort et ressuscité pour vous sauver. On n'est plus du tout dans la même, on n'est plus du tout dans la même logique. D'où parfois, dans un certain nombre de cas, un désir de rupture et d'opposition. Ce qui m'amène, je dirais, un autre point extrêmement important dans cette question de la transmission dans le monde d'aujourd'hui, c'est que nous avons pardon, je recherche un élément dans mes notes, voilà, nous sommes confrontés à un problème global de la société et qui est une vraie rupture. Je voudrais juste citer René Raymond, que tout le monde connaît comme étant un grand historien, et qui a cette expression. Pourquoi le passage de témoin ne se fait-il plus? Et lui-même dit, cette rupture constitue une grande énigme. On voit donc comment cette question de la foi chrétienne, et j'ai insisté au début en disant combien elle était portée par le contexte social et culturel, donc je pense que la problématique n'est pas du tout la même dans le judaïsme. Et comme on a une rupture au niveau de la société, on a donc aussi une rupture au niveau de cette transmission de la foi. Rupture au niveau de la transmission de la foi, parce que justement, on est désormais confronté dans la société, d'une part, je l'ai légèrement évoqué tout à l'heure, à une automisation des enfants qui prennent une, je dirais, une grande indépendance, une grande liberté. On a deuxièmement, dans le cadre de notre société, comme un espèce de refus de la tradition, et donc justement de refus de la transmission. Puisque d'une certaine manière, comme je disais, avec cette espèce d'esprit de libertaire et de libre arbitre, et là encore non pas de liberté, on a comme un espèce de refus de tout ce qui pourrait nous être imposé. Et avec le jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au baptême, d'un certain nombre de parents qui, jouant ce jeu d'une soi-disant liberté, ne veulent rien imposer, donc ne rien transmettre. Au nom de ne rien imposer, alors que, comme je l'ai dit, cette transmission, c'est simplement l'élément qui permet ensuite de faire des choix en connaissance de cause et en toute liberté. Donc, individualisme, libre arbitre et refus de l'autorité. Si on rajoute sur la période récente tout ce qui est accès aux réseaux sociaux, tout ce qui est accès à Internet et autres, vous revoyez encore comment une espèce de dispersion et on n'a plus de vraie transmission en fait. C'est un supermarché où chacun picore ce qu'il veut. Donc, on voit comment nous sommes pris pour la transmission chrétienne dans cette problématique globale de la société. Et c'est au sein de cette société qu'il faut effectivement renforcer le témoignage dont je vous ai parlé initialement. Sachant que actuellement nous avons aussi un problème particulier, et que si la foi chrétienne repose sur le témoignage, la transmission de la foi chrétienne peut aussi être démolie par les contre-témoignages. Ça, c'est aussi un élément dont il faut tenir compte. Avec en même temps le fait de ce que l'on peut se dire, qui pour moi me paraît quand même un élément important, vous avez souvent des gens qui vous disent, oh, mais l'Église, regardez, ça n'a été que 2000 ans de turpitude et 2000 ans de compromission, de pouvoir, de sang, de sexe, enfin bref, de tout ce que vous voulez. Moi, en général, dans ces cas-là, je leur réponds, bah, écoutez, si cette institution a autant de péchés sur son dos et qu'elle a réussi à survivre 2000 ans, ça veut dire qu'il doit quand même y avoir autre chose. Sinon, n'importe quelle institution humaine, si elle était si pourrie à ce point-là et qu'il n'y avait rien d'autre, bah, elle n'aurait pas tenu 2000 ans. Parce que je pense que c'est aussi le fait de reconnaître que, comme le dit saint Paul, nous portons un trésor dans des vases d'argile. Et que ce n'est pas parce que nous sommes pécheurs que les valeurs que nous défendons ne sont pas des valeurs justes. C'est simplement que nous avons du mal à les vivre. Alors effectivement, ça pose une question, mais voilà, mais je pense que c'est un élément dont il faut tenir compte. Alors face à cela, quels vont être effectivement les deux risques pour la transmission? Ça va être le risque de tout se vaut, je te laisse ta liberté. Et de toute façon, reprendre un des termes de l'intitulé de notre rencontre de ce soir, il faut être en dialogue. Donc, pour être en dialogue, il faut être ouvert. Donc, je ne te transmets pas quelque chose qui sera quelque chose de très structuré, de très dur, de très fermé, etc. Ça, c'est une des possibilités. Et arguant notamment du fait de dire, puis de toute façon, il faut qu'il y ait la liberté pour choisir. Et puis d'un autre côté, on va avoir au contraire un souci de transmission qui va être rigide. C'est-à-dire, face au contexte dans lequel nous nous trouvons, face à tout ce que sont, entre guillemets, ces contre-valeurs, cette dispersion, on va se rigidifier dans une identité religieuse. Et là, je dis bien dans une identité religieuse. Parce que je pense notamment par rapport à la foi chrétienne, L'identité religieuse chrétienne n'est pas, ne colle pas exactement avec le fait de vivre sa foi chrétienne en tant que disciple du Christ. Peut y avoir un certain hiatus. Et donc, on va avoir cette rigidification et on tombe à ce moment-là, effectivement, dans un réflexe identitaire et non plus communautaire selon le témoignage des actes des apôtres, mais dans un réflexe communautariste. Je pense que maintenant, tout le monde sait bien faire la différence entre le sens communautaire et le sens communautariste. Puisque le sens communautariste va exclure l'autre. Il ne fait pas partie de ma communauté et il est exclu. Et donc, à ce moment-là, je dirais, il va y avoir effectivement une difficulté pour entrer en dialogue, parce qu'on va aussi être dans une vision, j'ai reçu une vérité que l'on m'a transmise, je suis détenteur de cette vérité, et je dois imposer cette vérité à tout le monde. Et les autres sont dans l'erreur. Bon, ça nous rappelle quelques souvenirs, enfin quand même assez anciens. Et donc, je dirais, c'est l'ultime élément qui peut être mis en cause par certains, c'est de dire, notamment depuis le Concile, et aussi la très belle encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam, qui insiste sur le fait de la nécessité du dialogue, et qu'au contraire, le dialogue fait partie de l'identité chrétienne. Puisque le dialogue fait partie, dans la foi chrétienne, de l'identité même de Dieu. Puisque Dieu est Trinité et Dieu est donc dialogue d'amour. Et donc, effectivement, je dirais, la transmission de la foi chrétienne ne peut pas ne pas transmettre la dimension du dialogue. Parce qu'elle est constitutive de notre foi. Et que finalement, ce qui est important, et en général, on le sait, c'est assez courant, ceux qui sont les plus rigides et le plus contre le dialogue, c'est parce que finalement, ils ne sont pas si sûrs d'eux que ça dans le fond de leur foi. Donc, ils se construisent une carapace. Ils se construisent un bastion. Alors qu'au contraire, il me semble que si l'on est bien assuré, bien enraciné dans sa foi, dans une tradition, on va pouvoir justement, au contraire, recevoir la parole de l'autre comme un questionnement pour ma propre tradition, comme un questionnement par rapport à ce que j'ai reçu, et du coup comme un enrichissement à partir de ce questionnement sur ce que je vais essayer de transmettre. Donc finalement, il n'y a absolument pas d'opposition. Je dirais, il y a au contraire comme une espèce de forme d'harmonie, ou on pourrait dire comme une espèce de tension dialectique entre les deux. Mais c'est effectivement tout le... Je pense qu'au fond, la question de la transmission de la foi aujourd'hui pour l'Église, elle est une confrontation à la question de la transmission d'une manière générale dans la société. Et à une question aussi de la crédibilité, aussi bien dans le mode d'expression, dans les moyens de transmission, que dans la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Parce que la transmission passe aussi par l'exemple. Donc voilà, si vous voulez, en quelques mots, par rapport à ce thème de la transmission de ce soir, je pense que j'ai légèrement dépassé le temps qui m'était imparti. De 5 minutes, je pense. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair. Évidemment, on ne pouvait pas évoquer toutes les ramifications de ce sujet, mais j'ai pris un petit peu ce point de vue par rapport à la problématique contemporaine de la situation dans laquelle nous sommes.